Avez-vous une bonne mémoire?
Je la travaille.
Avez-vous une bonne mémoire?
On va essayer, ouais. Normalement, ça va.
Saviez-vous qu'on a tous deux cerveaux?
Je le savais, ouais.
Saviez-vous qu'on a tous deux cerveaux?
On en a trois.
Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et nous accueillons Isabelle Simonetto, avec qui nous allons parler mémoire et comment améliorer ses capacités. Isabelle Simonetto est docteure en neurosciences et conférencière spécialiste de la mémoire. Elle a quitté le monde de la recherche fondamentale pour se consacrer à la recherche appliquée dans le milieu industriel. Elle intervient comme experte auprès de l'APM autour de deux thématiques, les pathologies de la mémoire et l'activation de la mémoire. Isabelle, bonjour.
Bonjour Rémi.
Comment est-ce qu'on devient experte de la mémoire ?
Alors l'histoire, il faut remonter quelques années en arrière, hein, puisque j'ai démarré, en fait, j'ai une thèse de neurosciences et j'ai démarré mes études. Alors à l'époque, c'était encore des maîtrises sur le dysfonctionnement de la mémoire. Et ensuite, je suis allée à Marseille, au CNRS, dans un laboratoire de neurobiologie du comportement pour travailler sur le vieillissement et la mémoire. Est-ce qu'on avait des moyens d'améliorer par des molécules chimiques ou par de la potentialisation, la mémoire de ces vieux rats. Et puis, j'ai fait une allergie aux rats. Donc, j'ai dû changer de sujet d'étude et je me suis retrouvée donc à l'hôpital de la Timone, à Marseille, à l'Institut de la maladie d'Alzheimer, qui a été le premier institut en France de la maladie, où on travaillait sur la maladie d'Alzheimer. Et voilà comment je suis devenue une spécialiste, entre guillemets, de la mémoire.
Alors, il y a beaucoup d'idées reçues au sujet de la mémoire. Par exemple, on dit qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ?
Alors, les fameux 10% de l'utilisation du cerveau, hein, qui a donné lieu au film de Besson, notamment, hein, de Lucie, ça fait partie des nombreux neuromythes, en fait. Hein. On appelle ça des neuromythes, comme tout se joue avant 6 ans, comme à partir de 25 ans, on ne fait que perdre des neurones, etc. etc. On n'utilise pas 10% de notre cerveau. Hein. Alors, on a cherché longtemps maintenant d'où provenait cette croyance. Et en fait, visiblement, ça vient des années 70. Hein. Mais on utilise 100% de notre cerveau. Hein, notre cerveau est actif en permanence. Alors, pas à 100% en même temps, mais toutes les zones de notre cerveau fonctionnent et fonctionnent même plutôt à un très, très haut régime, hein, même quand on ne fait rien. Alors, ça a beaucoup plu, ce mythe, parce qu'en fait, quand on se dit qu'on fonctionne à 10%, on a l'idée qu'on en a encore 90% éventuellement disponibles que l'on pourrait un jour découvrir. Voilà, mais ce n'est pas le cas.
Bon, alors là, on va avoir beaucoup de déçus. En 2014, tu as publié un ouvrage intitulé « Des stratégies efficaces de mémorisation ». Est-ce que tu peux nous en présenter au moins une ?
Alors, les stratégies de mémorisation, efficaces de mémorisation, en fait, c'est un trio qui va ensemble. Ils aiment bien être tous les trois ensemble, c'est là où ils sont le plus efficaces. C'est un trio que moi j'appelle l'addition magique. Et alors, séparément, ce trio, alors la présentation du trio, c'est la structuration mentale, qui est la stratégie de mémoire la plus connue du grand public. Hein. Grand 1, grand 2, grand 3, il y a tant d'éléments. C'est la structuration intellectuelle, la logique, le plan que l'on apprend à l'école. Ça, c'est donc le premier du trio. Le deuxième, c'est les associations d'idées. Je fais des associations. Je veux mémoriser quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça me rappelle de ce que je connais déjà ? C'est-à-dire que chaque information que je possède, chaque connaissance que j'ai, va devenir un point d'attache éventuel pour une nouvelle information. On a souvent l'image de l'hameçon sur lequel je vais pouvoir accrocher un nouveau souvenir. Donc, plus j'ai de souvenirs, plus je peux accrocher de nouveaux souvenirs. C'est-à-dire que plus ma mémoire est pleine, et plus je peux la remplir.
C'est une autre idée reçue qu'on aurait.
Voilà, donc ça c'est le deuxième du trio. Et le troisième, c'est l'imagerie mentale. C'est-à-dire que je suis capable d'évoquer mentalement une image qui va me permettre de mémoriser aussi, qui va renforcer la mémorisation. Et quand on associe les trois, structuration, association, imagerie mentale, on tend vers la mémoire absolue.
Alors, dans une récente intervention à APM, tu expliquais qu'il n'y avait pas un, mais deux cerveaux.
Alors, peut-être que tu fais référence au cerveau entérique.
Oui.
Le cerveau que l'on a dans le ventre. Donc maintenant, effectivement, les gens en entendent parler beaucoup. Hein, ça a été très, très médiatisé. Mais il y a 10 ans, personne ne connaissait le deuxième cerveau ou cerveau entérique. Et le cerveau entérique, en fait, c'est les 200 millions de neurones que l'on a dans le ventre, autour du tube digestif, hein, autour de l'intestin, de l'estomac, et qui constituent un réseau de neurones. Et la particularité de ce cerveau entérique, c'est que ben justement, il n'en a pas par rapport au cerveau central. C'est qu'on a les mêmes neurones, on a les mêmes familles de neurones que dans le cerveau central. Et on a les mêmes échanges de neurotransmetteurs. Donc, on retrouve les mêmes composantes dans le cerveau central et dans le cerveau entérique. Alors, on commence à découvrir ce cerveau entérique et son rôle dans la gestion des émotions, notamment, et la façon dont il communique avec le cerveau central. Le premier cerveau.
Ah, c'est pas là où sont logées les intuitions, par exemple, parce qu'on se dit ah tiens, je le sens bien, je le sens mal. Non, ça n'a rien à voir avec ça.
Alors si, tout à fait, c'est une excellente question parce que effectivement, ce que je dis souvent, c'est quand on est stressé, on a pas mal à la tête. En général, on a des crampes au ventre, on va voilà, très souvent aux toilettes, et toutes les expressions dans le monde entier, hein, c'est vrai dans n'importe quelle langue, quand on fait référence à la peur, au stress, c'est quelque chose qui a lieu, qui a à voir avec le ventre. Par exemple, on dit « ça lui est resté sur l'estomac, ouais. Il ne l'a pas digéré ». Il s'est mis la rate au courbouillon.
Mais pourtant, tout ça, c'est antérieur avec la découverte de ce cerveau entérique.
Absolument. Et on le retrouve. Alors, cette particularité, c'est qu'on la retrouve dans
toutes les civilisations.
Dans plein de langues différentes, absolument.
OK. Là, on apprend des choses. Alors, moi, j'ai été surpris d'apprendre qu'il existait une discipline de haut niveau avec un rendez-vous incontournable qui est le championnat de France de mémoire. Alors, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques comment il y a des athlètes de la mémoire qui arrivent à tout mémoriser. Alors que moi, j'ai mis 1 an à retenir le numéro de téléphone de ma propre mère. Est-ce que c'est une question d'intelligence? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus?
Alors justement, à l'APM, il y a un expert qui s'appelle Sébastien Martinez, qui est champion de France de mémoire.
Eh ben, c'est donc, oui, effectivement, c'est lui que j'ai vu.
Voilà.
Il avait retenu les 52 villes. C'était incroyable, la liste.
Voilà, donc en fait, je crois... Alors Sébastien, je ne connais plus ses performances, il faudrait lui demander, mais il intervient pour l'APM. Hein. Moi, je l'ai rencontré bien avant. On avait beaucoup échangé là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de... Ben, tu vois, en fait, il reprend les stratégies dont on a parlé précédemment, les 3 stratégies, structuration, association d'idées, imagerie mentale. Et en fait, par exemple, avec la méthode des lieux que tu as dû expérimenter, hein, où je pose une information dans un lieu donné, donc la méthode des lieux, mais il y a des tas d'autres méthodes, des tas d'autres codes qui, d'une manière ou d'une autre, reprennent 1 ou 2 ou 3 des stratégies de mémorisation efficaces. Et en fait... Une fois qu'on connaît la technique, alors on passe en général beaucoup, beaucoup de temps à apprendre la technique et à apprendre des codes. Parce qu'il y a des codes, par exemple, chaque chiffre va correspondre à une lettre ou à une image. Et après, je me crée des codes pour faire des associations d'idées et des imageries mentales. Donc, en fait, le plus gros travail de quelqu'un qui va faire un championnat de mémoire, c'est de mémoriser les codes. Et une fois qu'il a mémorisé les codes, il a des points d'ancrage pour attacher les nouvelles informations. Donc, c'est de l'entraînement, de la discipline, de la motivation, de la méditation. Voilà. Mais c'est surtout de l'entraînement comme quelqu'un qui se prépare à faire un marathon.
Bon, toi, tu t'es jamais essayé à la discipline?
Non.
pas athlète de la mémoire?
Non, je ne suis pas une athlète de la mémoire.
Pourtant, athlète de la mémoire, je trouve que c'est
oui,
assez cool.
Il y a un proverbe, hein, je ne sais pas si tu le connais, hein, mais tout le monde le connaît, que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés.
C'est vrai.
Non, mais voilà. Mais effectivement, ça demande, il faut être motivé. Je manquerai peut-être un peu de motivation sur cette discipline-là.
Alors, dans les neuromythes dont tu parlais tout à l'heure, tout se joue avant 6 ans et puis à partir de 25 ans, on ne produit plus de neurones. Moi, j'avais arrêté de travailler la mémoire depuis que j'ai 20 ans. Pensant ça, je me suis trompé, je n'aurais pas dû, quoi.
Oui, puis il n'est jamais trop tard pour redémarrer.
Hein. Je peux m'y remettre.
Voilà. Alors, c'est un autre expert APM qui est Pierre-Marie Liédot qui a fait partie des chercheurs dans le monde qui ont découvert la neurogénèse.
Et ben Pierre-Marie sera sur le podcast aussi sur un autre épisode. Donc on va pouvoir compléter, on aura une connaissance experte du cerveau. Isabelle, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil peux-tu donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui souhaiteraient devenir des athlètes de la mémoire ? Ou globalement avoir une meilleure mémoire, hein,
avoir une meilleure mémoire. Alors, l'APM, par définition, c'est un acte neurobiologique, hein, on pourrait dire, de mon point de vue, puisqu'en fait, c'est un endroit, c'est un lieu où on va exercer sa plasticité cérébrale et où on va se câbler. Puisque justement, un des neuromythes qui est tombé au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est que le cerveau évolue en permanence. Et comment le faire évoluer ? Ben, en découvrant des choses nouvelles. Et où découvrir des choses nouvelles mieux qu'à l'APM, hein,
bon.
Finalement. Et donc, l'adhérent qui va venir à l'APM pour découvrir de nouvelles choses va faire travailler sa mémoire, à condition évidemment, et ça c'est hyper important, que la rencontre ne reste pas quelque chose d'isolé, parce que vous pouvez avoir une rencontre magnifique, mais s'il n'y a rien qui se passe après, ben souvent ça tombe dans les oubliettes. Puisque mémoriser, c'est une première étape, mais il y a une deuxième étape qui est fondamentale, c'est la consolidation. Je fais quoi de ce que j'ai appris et comment je l'intègre dans mon quotidien ? S'il n'y a pas d'intégration, s'il n'y a pas d'utilisation...
Ça passe à la trappe.
Ça passe à la trappe.
Bon, et ben c'est un très bon conseil. Merci pour tout ça et pour ces éclairages.
Merci, merci Rémi.
Est-ce que vous pensez que l'APM vous aide à contribuer de manière positive au monde qui vous entoure ?
J'y apporte ma contribution, oui.
Ça contribue personnellement, ça contribue professionnellement.
Oui, obligatoirement, parce que quand on est plus posé, on a une ouverture d'esprit qui est plus grande, plus à l'écoute et on est meilleur.
Je ne sais pas si l'APM m'aide à contribuer au niveau du monde qui m'entoure, mais en tout cas dans ma boîte et pour mes salariés, oui.
Ah, j'essaye, mais ça m'aide, ouais, je pense.
Ah, au monde avec un grand M, je ne sais pas, mais en tout cas au petit monde autour de moi, probablement.
Et oui, parce qu'en fait, l'APM m'aide à le comprendre.